commencer. Merci à toi.
L'Évangile de Luc, chapitre 15. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci envoyait dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les carreaux que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et lui fit pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez et mettez-le lui. Passez-lui une bague et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qu'il se passait. Le garçon lui répondit « C'est ton frère, il est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à rentrer, mais il lui répondit « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. Et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Et il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et le voici retrouvé. »
Merci beaucoup. Vous avez d'abord, pour ne pas que je les oublie, les salutations de l'Église évangélique libre de Toulouse, où j'étais la semaine dernière en visite synodale. Ils m'ont demandé de vous saluer, donc je l'ai fait. Vous avez reconnu l'histoire du fils prodigue, mais ce qui est intéressant dans cette histoire racontée par Jésus, c'est que Jésus ne l'appelle pas la parabole du fils prodigue. Il commence par dire « un homme avait deux fils ». Et c'est pourquoi on pourrait l'appeler l'histoire des deux fils. Alors, Rembrandt, le peintre hollandais, vous savez que Rembrandt, c'est son prénom d'ailleurs. Son nom, je ne vous le dis pas, parce que c'est un nom à rallonge hollandais, un petit peu comme Van der Does, mais voilà, Rembrandt, c'est son prénom. Et il a peint cette histoire des deux fils. Et il attire l'attention sur le père qui prend dans ses bras son fils retrouvé, et quand on zoome sur les mains du père, on s'aperçoit qu'il a une main un petit peu large et une main très fine et étroite. C'est une main paternelle et une main maternelle qui accueille le fils perdu. Mais il y a un autre personnage sur la photo de droite que l'on voit qui est un peu dans l'ombre dans l'histoire, mais qui est en fait un des personnages centraux de l'histoire. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, où cette histoire nous est rapportée, le public visé ressemble à s'y méprendre au fils aîné. Le public, ce sont les paraboles, les pharisiens, les docteurs de la loi, et cette parabole s'adresse un petit peu à tous ceux qui leur ressemblent. Ce deuxième fils, effectivement, est un peu dans l'ombre, le fils aîné. C'est un type sans histoire. Jusqu'à ce que son frère cadet fasse toute une histoire. Alors là, l'histoire du fils aîné commence. Et en fait, son histoire n'est pas si différente que celle de son frère. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. C'est l'histoire de deux fils qui cherchent le bonheur. Le fils cadet cherche le bonheur par l'accomplissement personnel, par l'usage intensif de sa liberté. Il a envie d'expérimenter le monde, de se faire une idée de ce qu'il peut y faire. Il veut jouir pleinement de sa liberté, de son autodétermination. Autrement dit, je fais ce que je veux. Et certains, effectivement, prenaient cette voie-là à l'époque, mais on pourrait dire qu'aujourd'hui, ils sont, on ne va pas dire majoritaires, mais en tout cas très nombreux, des hommes et des femmes qui pensent qu'il ne faut accepter aucune restriction morale ou autre et faire sa vie comme on l'entend. Faire le maximum d'expériences sans tenir compte des conventions, encore moins de la tradition, encore moins du qu'en dira-t-on. Des personnes qui veulent se dégager du poids du groupe social, de la société. Tout ce qui peut entraver cette liberté sera retiré ou relativisé. Freedom ! Les baby-boomers, dont je fais partie, s'y retrouvent assez bien, hein, les anciens hippies, enfin non, je n'étais pas hippie, mais hein, ceux qui sont nés entre 45 et 65, hein, c'est le baby-boom, on s'y retrouve un peu avec un grand prêtre, enfin c'est pas mon grand, mais Michel Onfray est un petit peu là-dedans. Le fils cadet demande l'héritage et il s'en va sur la route pour jouir de sa liberté. Et mener, le verset 13 est intéressant, et mener une grande vie. Pas une vie étriquée, pas une vie contraignante, pas une vie serrée, une vie de soumission dans le devoir, non, une grande vie. Voyons large. Ça, c'est le fils cadet. Et puis, il y a le fils aîné qui cherche lui aussi le bonheur, mais d'une manière tout à fait différente. Il cherche le bonheur et il choisit la voie de la rectitude morale. Il veut faire ce qui est bien, ce qui est attendu par la communauté, la société, la tradition. Il veut faire son devoir. Et une phrase qu'il prononce quand il se met en colère à la fin de l'histoire est révélatrice. « Jamais, » il s'adresse à son père, « je n'ai désobéi à tes ordres. » Sous-entendu, j'ai toujours obéi. J'ai toujours fait ce que l'on ou tu attendais ou que ce que l'on attendait de moi. Ma chambre était bien rangée. J'ai toujours été propre sur moi. Je n'ai jamais fait de vague. J'ai simplement surfé sur la vague de la rectitude morale. Et à l'époque, ils étaient très nombreux à suivre cette voie de la rectitude morale comme voie de bonheur ou du salut. J'ai parlé des docteurs de la loi, des pharisiens, etc. Il serait un peu moins aujourd'hui à suivre cette voie. Mais ce n'est pas si sûr. Il y a encore de nombreuses personnes qui mettent les standards moraux très haut dans leur échelle de valeurs, qui parlent beaucoup des valeurs, les valeurs judéo-chrétiennes, par exemple, ou les valeurs de la République. Deux fils à la recherche du bonheur, ou qui cherchent à justifier leur existence. L'un par l'épanouissement personnel, l'autre par la rectitude morale. Et ce sont aussi, c'est l'histoire de deux fils et de deux visions du monde qui s'opposent. Et ce qui est intéressant, c'est que la vision du monde, selon la vision du monde, ce que la vision du monde change selon le camp où l'on se trouve. Pour les fils aînés, je le dis au pluriel, tous les fils aînés qui ont choisi la rectitude morale, le monde tournerait mieux si tout le monde suivait la voie de la rectitude morale. Et pour cela, le problème dans ce monde, ce sont les gens qui n'ont pas de morale, comme ce fils cadet. Et la solution, ce sont les gens qui ont de la morale. Mais inversement, pour le club des fils cadets qui ont choisi la voie de l'accomplissement personnel, le problème dans le monde, ce sont les moralisateurs de première qui vous mangent toute la liberté, ce sont eux le problème. Et la solution au problème de ce monde, ce sont eux, les progressistes, les libertaires. Et je dois à cet auteur new-yorkais, Timothée Keller, ce développement, mais j'ai trouvé ça tellement pertinent et qui nous permet peut-être de décrypter un petit peu le monde dans lequel nous vivons et peut-être la question des gilets jaunes. Je ne m'engage pas plus avant dans le décryptage de la question des gilets jaunes. Alors, est-ce à dire qu'il faut pour autant diviser l'humanité entre deux catégories, les fils aînés et les fils cadets, la rectitude morale et l'accomplissement personnel? Ben oui et non. Oui, parce qu'il s'agit, c'est vrai, de deux voies qui sont bien représentées dans l'humanité. Et on sent bien qu'un grand nombre de personnes ont des prédispositions pour l'un ou des prédispositions pour l'autre. Et naturellement aussi, d'une manière naturelle, je veux dire, on se sentira attiré, nous-mêmes, vous-même, par l'une ou l'autre voie, selon notre vécu, selon notre éducation, selon un certain nombre de facteurs. Mais non, en même temps, non, on ne peut pas diviser simplement l'humanité en ces deux catégories, parce que personne n'est complètement dans l'une ou l'autre. On peut même passer de l'une à l'autre selon les saisons de la vie. Après avoir cherché du côté de l'accomplissement personnel, on revient parfois à celui de la rectitude morale. On se range, dit-on, on se range. Il faut que jeunesse se passe ou se fasse. Mais le contraire est aussi vrai. Après avoir essayé la rectitude morale, c'est-à-dire avoir fait les choses toujours bien comme il faut dans la vie, on peut passer tout d'un coup à l'accomplissement personnel, la recherche d'une liberté, la crise des 40 ans, 50 ans, 60 ans, 30 ans. On connaît ça. Alors pourquoi passe-t-on de l'une à l'autre? Eh bien, parce que aucune de ces voies ne mène là où elles étaient censées nous mener, c'est-à-dire au bonheur. Toutes les deux sont quelque part des échecs ou des ratages. Et quand je dis le mot ratage ou ratage de cible, il s'agit, je l'utilise parce qu'il s'agit de l'étymologie grecque du mot péché. En grec, le Nouveau Testament a été écrit en grec, dans un grec un peu spécial, le grec de la koiné, le grec commun. Et le mot péché, amartia, ça veut dire manquer la cible, rater la cible. Et le péché, c'est rater la cible d'une relation avec Dieu. En emprunter des trajectoires, on les rate parce qu'on prend des trajectoires qui ne mènent nulle part. Et Jésus veut insister là-dessus en racontant l'histoire des deux fils. Ces deux voies, celle du fils cadet ne mène nulle part et du fils aîné ne mène nulle part. Les deux voies. Celle du fils cadet ne mène nulle part. Et ça, c'est assez évident, on l'a vu. Mais c'est un peu moins évident, celle du fils aîné ne mène nulle part non plus. Ce sont des voies de péché dans le sens où elles ne mènent pas vers une relation apaisée avec Dieu. Et ça, pour la même raison, c'est que toutes les deux sont des voies où on se construit soi-même, où on se revendique soi-même, des voies d'auto-revendication, soit de la liberté, je me revendique de la liberté, ou je revendique ma liberté, soit de la moralité, je revendique ma moralité. Ce sont des planches de salut qui ne vous font pas rebondir. Je regarde pour me détendre des séquences de vidéos où il y a des chutes, fails, les chutes. Et 10% de ces chutes, c'est dans les piscines privées, avec le petit plongeoir là qui est mal ajusté. Et là, on voit un Américain, ils sont tous très forts les Américains, il s'élance sur le plongeoir et le plongeoir s'écrase, se défait, ou il glisse dessus, il tombe, pom, dessus, il rebondit. Moi, ça me fait rire, je ne devrais pas, mais ça me fait rire et ça me détend le dimanche soir, quand j'ai le blues du pasteur du dimanche soir. Et ça, c'est les planches de salut de la rectitude morale ou de l'accomplissement personnel dans sa liberté. C'est des planches de salut sur lesquelles on glisse dessus ou qui se dérobent sous vos pieds. Et c'est pour cela que l'on peut appeler cette parabole l'histoire des deux fils perdus. Ils sont tous les deux dans un désir de s'accomplir lui-même, l'un dans sa liberté, l'autre dans sa rectitude morale. Et donc c'est l'histoire, c'est l'histoire aussi de deux fils perdus, de deux fils frustrés, perdus, loin de Dieu. Ils sont perdus, ils sont frustrés, ils sont loin de Dieu. Le fils cadet, parce qu'il a demandé son héritage, « Donne-moi ma part d'héritage, celle qui me revient !» Et qu'il est parti pour le dépenser en menant grande vie. Il est bien le fils prodigue, prodigue qui veut dire dépensier. On peut noter que ce fils, c'est intéressant, ce fils rebelle, le fils cadet, il veut les biens du père, mais il ne veut pas le père. Il prend le fric, il prend l'oseille et il s'en va. Il prend les bénédictions et il s'en va. Il veut l'argent du père, mais pas le père. Il est loin du père. Et puis après, il y a le fils aîné. Il est resté à la maison, il a obéi à tout point à son père toute sa vie, il a fait ce qu'il fallait. Mais est-il plus proche du père pour autant? Et la réponse qu'il fait à son père montre l'état de son cœur. Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer. Et là apparaît toute la frustration du fils, qui a toujours fait ce qu'il fallait dans la vie. Et toute la distance par rapport à son père, toute sa rébellion refoulée. Et ce n'est pas juste de la jalousie par rapport à son frère, c'est une véritable révolte contre son père. Ce qui l'est en train de dire, le fils est... C'est puisqu'il a toujours obéi à son père, maintenant, son père lui doit quelque chose. Puisque j'ai toujours fait ce qu'il fallait faire dans la société et devant toi pour le fils aîné, on me doit quelque chose. Tu me dois quelque chose. Je n'ai jamais désobéi, maintenant tu dois faire les choses comme je veux que tu les fasses. Je n'ai jamais désobéi, donc maintenant j'ai des droits. Mon père, mon petit père, tu me dois quelque chose. Et on s'aperçoit dans ce moment critique que ce fils aîné, qui a toujours tout bien fait extérieurement, ne l'a jamais fait par amour pour son père. Manifestement, le cœur n'y était pas. Il était en fait dans la même rébellion que le fils cadet. Comme lui, il se fiche du père. Tout ce qu'il veut, c'est les biens du père. Deux fils perdus. Et on pourrait comparer ces deux fils à Mozart et Salieri, Wolfgang Amadeus Mozart et Antonio Salieri. On connaît Mozart, enfant prodige, et peut-être prodigue aussi, un peu fantasque. Et je lisais sur Internet, dans le grand dictionnaire Wikipédia, qui disait: dans les dernières années de sa vie, Mozart est souvent malade et chroniquement endetté. Ceci malgré de nombreux succès très bien attribués, car il mène grand train de vie, une vie large aussi. Ça ressemble un petit peu avec notre fils cadet. Mais avec le film Amadeus, le film de Milos Forman, paru je ne sais pas quand, mais d'après la pièce d'un certain Peter Schaffer, qui est aussi le scénariste du film, on fait connaissance avec une autre personne, Salieri. Salieri qui a existé, qui a eu un certain succès, et qui fait figure un petit peu de fils aîné. C'est un grand musicien, un homme droit qui, dès le départ, fait un vœu et qui passe une sorte de contrat avec Dieu. Lisez ceci avec moi. « Seigneur, c'est Salieri qui parle. Fais de moi un grand compositeur, permets-moi de célébrer ta gloire à travers la musique. Rends-moi célèbre dans le monde, rends-moi immortel. En retour, je te donne ma chasteté, mon travail, chaque heure de mon temps. Je te promets d'aider mon prochain de toutes mes forces. Amen. » Et Salieri fait sa part. Il ne touche pas aux femmes, il travaille avec diligence à sa musique, il enseigne la musique gratuitement pour de nombreux artistes, il donne aux pauvres, et sa carrière se porte bien, et il pense aussi que Dieu fait sa part du contrat. Et arrive Mozart dans l'histoire. Mozart qui est de loin beaucoup plus doué que Salieri. Le deuxième prénom de Mozart, c'est Amadeus, aimé de Dieu. Mais Salieri tombe dans une profonde jalousie par rapport à Mozart. Dans un autre dictionnaire, le Robert, il est dit « il prit ombrage » par rapport à Mozart. Ce Mozart, ce génie musical, dit Salieri, est vulgaire. Mozart n'arrête pas de tomber amoureux des femmes, il est sans religion, il n'a aucun égard à la tradition, mais malgré tout, Mozart, et c'est ce qui chagrine Salieri, Mozart est touché par la grâce. Et pour Salieri, ça c'est incompréhensible, lui qui a tout sacrifié pour mériter la bénédiction de Dieu, il voit Mozart qui se permet tout et même s'engager dans le mariage, et cela sans aucune punition divine. Et pour Salieri, c'en est trop, lui qui avait choisi la voie de la rectitude morale se retourne contre Dieu, contre le Père, avec lequel il pensait avoir passé un contrat, et il va dire « À partir de ce moment, nous sommes ennemis, toi et moi, en parlant à Dieu. » Et ça, c'est la crise qui attend les fils aînés, qui ont choisi la voie de la rectitude morale ou du mérite et qui s'attendent à ce que Dieu leur renvoie l'ascenseur, parce qu'il leur doit bien cela. Alors dans le film, hélas, Dieu reste désespérément silencieux, mais pas dans l'histoire de Jésus. Dans l'histoire que Jésus raconte, et il sait de quoi il parle, Jésus, quand il raconte cette histoire, puisqu'il est, lui, parole de Dieu, il incarne la parole de Dieu. Et Jésus raconte que le Père va aller à la rencontre des deux fils. C'est l'histoire de deux fils aimés de Dieu. Alors on sait bien que pour le premier, enfin le fils cadet, on sait bien que le Père l'attend à la porte et que lorsqu'il le voit, il court vers lui. Il court vers lui, sans peur du ridicule. Alors qu'à l'époque, le pater familias ne court pas. Ce sont les serviteurs qui courent, ce sont les enfants qui courent, ce sont les femmes qui courent. Mais les hommes, les pater familias, ne courent pas. Mais lui, ce père-là, il court pour accueillir ce fils qui était perdu et qui rentre. Mais, et on l'oublie souvent, il sort aussi pour son aîné. Alors que la fête commence, le fils aîné refuse de rentrer, le père l'apprend et il sort pour prendre du temps avec lui. Et il montre qu'il l'aime autant que l'autre. Il lui redit tout son amour en lui disant qu'il est bien le fils de la maison, que tous ses biens sont pour lui aussi. Et il faut noter que le père sort vers ce fils malgré leur, vers ses fils malgré leur rébellion. Le fils cadet s'est bien moqué de lui en demandant l'héritage alors qu'il n'est pas encore mort. C'est fort quand même, hein, de demander l'héritage alors que le père n'est pas mort. Et le fils aîné l'apostrophe, sans aucun respect, sans aucun mot d'introduction, du genre « père estimé ». À l'époque, on s'adressait au père, j'aurais dû dire ça à mes fils d'ailleurs, « père estimé ». Mais lui dit seulement « regarde ce que tu as fait ». On sent le mépris, le rejet. Mais pour ces deux fils qui ont méprisé le père, le père sort et va à leur rencontre. Malgré la souffrance paternelle, malgré le rejet évident du premier et la rébellion intérieure du deuxième, il est véritablement le père prodigue, celui qui dépense tout pour ses enfants, qui paye de sa personne et qui prend sur lui, le verset 12 le dit bien, le père fit le partage de ses biens envers ses deux fils, entre ses deux fils. Et le mot « bien », en grec, encore une fois, c'est le mot « bios » en grec, et qui a donné biologie, la science de la vie. Il donne, il partage sa vie entre ses deux fils. C'est lui, le père prodigue, qui le dépensier de son amour. Oui, il y a des points communs entre les deux frères, sauf la fin peut-être. Le fils cadet est revenu chez son père dans la repentance et il retrouve la communion de la maison symbolisée par la fête. Mais nous n'avons pas la fin de l'histoire pour l'aîné. Le père lui répond que tous ses biens ont toujours été à ta disposition, tout ce qui est à moi a toujours été à toi et l'est encore. Il le rassure de son amour, de tout l'intérêt qu'il a pour lui, et il justifie la fête pour le frère cadet parce qu'il est parti longtemps et qu'il faut bien l'accueillir. Il était comme mort, il est revenu à la vie. Le père appelle le fils aîné à se réjouir avec lui, à rentrer dans la fête, sans calcul, sans marchandage. Mais on ne sait pas comment a réagi le fils aîné. Peut-être avait-il besoin de réfléchir un peu, de laisser un peu passer la colère intérieure, d'aller à l'écart de la fête. Et puis aussi, on se dit que si Jésus ne donne pas la réponse du fils aîné, c'est parce qu'il y a le public là, l'ensemble des fils aînés. Et il laisse la question en suspens. Et vous, qui ressemblez peut-être à ce fils aîné, comment auriez-vous réagi? Et nous, comment on réagit à cette double histoire, à ces deux recherches de bonheur, deux visions du monde qui s'opposent, deux recherches de bonheur qui ne mènent pas à une relation apaisée avec le Père? Quelle application pour nous? Quelle fin pour l'histoire avant le clap final? Premièrement, connaître sa tendance. Suis-je dans la tendance à partir en live dans la vie, en live, la grande vie, ou je suis plus quelqu'un attiré par les valeurs, les principes, quitte à y être un petit peu coincé? Connaître sa tendance et rentrer en nous-mêmes, comme l'a fait le fils cadet. Alors qu'il gardait les porcs, il rentre en lui-même, nous a dit. Mais on peut imaginer que le fils aîné pourrait rentrer aussi en lui-même, soit dans la détresse d'un parc à cochons ou dans la colère sur le pas d'une porte qui mène à la fête. Rentrer en soi-même, changer de direction, se repentir, c'est le même mot. Changer d'histoire, changer le cours de mon histoire, renverser la tendance et revenir au Père. Rentrer dans sa communion, rentrer dans sa fête. Connaître sa tendance, deuxièmement, et rester vigilant. Rester vigilant parce que chasser le naturel est, je vous laisse dire la suite, et il revient au galop, non, je l'ai dit. Et la Bible dit dans l'Épître aux Galates, on peut avoir commencé par l'Esprit et sous la grâce et continuer sans l'Esprit. Est loin de Dieu. Et il est possible de voir des gens, des chrétiens, revenir à une recherche d'accomplissement personnel débridé, genre fils cadet, et d'autres, il est possible de voir aussi d'autres chrétiens revenir à une recherche d'une rectitude morale sèche et froide, genre fils aîné. Restez vigilants, et la Bible nous parle de la prière comme un lieu de vigilance par excellence. Et puis, troisièmement, être, devenir, rester, pas paraître, être un témoin de la grâce, témoin ou ambassadeur, proclamateur dans ma vie et dans mes paroles de la grâce de Dieu, même si cela coûte d'être à contre-courant et a fortiori d'être contre deux courants ou au milieu de deux courants, comme les baïdes sur l'Atlantique. Témoin de la grâce, pas témoin d'une série de règles à observer, pas témoin d'une série de valeurs, même chrétiennes, pas témoin d'une série de dogmes, même s'ils peuvent avoir de l'importance, pas témoin d'une nouvelle psychologie de l'accomplissement personnel, pas témoin d'une culture particulière, fût-elle évangélique, mais témoin de la grâce et de la grâce seule. Du don gratuit de l'amour de Dieu en Jésus-Christ, mort à notre place et ressuscité pour une vie nouvelle. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Oui, être des témoins de la grâce et de la grâce seule, c'est ce que nous voulons être ensemble, en communauté. Et le parcours Alpha, qui commencera mi-mars, va tout à fait dans ce sens, dans le sens de la grâce, d'être témoin de la grâce pour ce monde qui se perd sur des plongeoires glissants. Une grâce qui est pour toutes les filles et les fils de ce monde qui sont perdus et retrouvés. Amen. Je vous invite à un petit temps de prière. Seigneur, merci de ta parole vivante, enfin je le crois, qui nous touche, qui me touche en tout cas, pas là où ça fait mal, mais là où ça éclaire des choses. Et tu sais où chacun, où nous en sommes, tu connais les tendances de chacun. Donne-nous, Seigneur, par ton esprit qui agit puissamment, à revenir toujours, chaque jour, à ta grâce, à rentrer en nous-mêmes, de voir si on est plutôt genre fils cadet ou genre fils aîné, ou un mélange des deux, et venir changer notre vision du monde et venir nous abandonner en toi. Renouvelle-nous par ta grâce et fais-nous marcher dans cette grâce qui est cet amour gratuit, inconditionnel que tu donnes en Jésus-Christ. Et Seigneur, c'est pas facile de recevoir cet amour. C'est pas facile de calmer la colère en nous. C'est pas facile de rentrer à la maison et de se dire qu'on s'est détourné. Mais Seigneur, ton accueil nous le rend plus facile. Donne-nous, Seigneur, de revenir à toi et de vivre avec toi. Te le demandons au nom de Jésus, celui qui est mort et ressuscité pour que notre histoire change de tendance. Seigneur, renouvelle notre histoire et que ton histoire soit la nôtre. Au nom, oui, de Jésus. Amen.